Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Exploration psychédélique, une série de Marie Chartron réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le titre de cette émission qui se devait forcément d'explorer la question et se souvenir de la fin d'été 1969, il y a 50 ans, de la grande fête folle de Woodstock et de tous ceux qui ont pris la route. Alors pour commencer, les personnages. Une artiste outre-Manche, une musicienne face aux couleurs, une actrice pleine d'espoir, un musicien qui tournait, les journalistes d'actuel, Sylvia Plath et des féministes toutes neuves. Ensuite, le décor, des rêves, des visions, des baffes, le centre culturel américain à Paris, la vie à la roue, des veillées, du chamanisme sur les bords, Katmandou, un bus bariolé, la libération sexuelle, mais pas pour tout le monde, la famille autrement, la spiritualité et la désillusion. Aujourd'hui, 3e épisode, Cheveux longs pour tout le monde.
Quel âge vous avez ?
16 ans.
Est-ce que vous êtes une beatnik ?
Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un beatnik ?
C'est quelqu'un qui aime les garçons avec les cheveux longs.
Fille ou garçon ? Voici les beatniks. Depuis quelque temps, l'Europe découvre leurs cheveux longs, leurs harmonicas ou leurs guitares.
On est considérés comme des parias, mais ça fait rien, on s'en contente. Quoi.
Aujourd'hui, 7 candidats sont en lice pour ces présidentielles, pour ce premier tour.
Le beatnik, c'est, dit-on, le battu, celui qui abandonne, qui ne veut plus lutter, celui qui refuse de participer.
Est-il besoin de rappeler leur nom ?
Pourtant, quand on sait qu'ils se rangent derrière la bannière que portent haut Bob Dylan et Joan Baez, on ne peut pas ne pas trouver incomplète cette définition.
C'est une révolte contre les parents et les milieux sociaux.
Ils regardent la télévision le samedi, le dimanche, ils vont au cinéma, ils ont la voiture le dimanche pour aller à la campagne.
Et bientôt, ils vont faire leur vie comme tout le monde, je crois.
Ils se marient, qui ont des enfants, qui voient pousser les enfants.
Et pourquoi vous aimez les garçons aux cheveux longs ?
Gaston Defer, Louis Ducatel, Jacques Duclos, Alain Krivine, Alain Poher, Georges Pompidou, Michel Rocard. Là, j'ai respecté, bien sûr, l'ordre alphabétique.
Le beatnik est surtout un révolté épris de liberté. Mais où la révolte le mènera-t-il ? Sera-t-il poète ou clochard ?
En 1966, les journalistes perplexes de l'ORTF s'interrogent sur la jeunesse et ce phénomène beatnik que l'on pensait tout droit venu des États-Unis. Et ils le font tout autant en 1969, lorsque les candidats à l'élection présidentielle affûtent leurs arguments pour succéder au général de Gaulle. Dans cette deuxième moitié des années 60, il y a comme un courant d'air à l'arrière de la maison et l'appel du large se fait sentir. La conquête militante, la quête personnelle et communautaire, la quête musicale, le grand voyage vers l'Orient. Autant de routes qui s'ouvrent.
Ils se veulent libres et renient la société d'où ils viennent et qu'ils choquent peut-être. Mais à force de se vouloir libres, ne seront-ils pas un jour prisonniers de leur liberté ?
Je crois même que la bourgeoisie en éprouve le besoin. Elle voit faire d'autres gens ce qu'elle n'ose pas faire elle-même, et c'est comme on voit un film horrible ou un spectacle affreux, déjeuner ou quoi pas, qu'on est content de voir quelqu'un faire ce que vous n'osez pas faire vous.
Vous vous donnez jusqu'à quel âge pour être une beatnik ?
19.
En terre psychédélique, les voyages initiatiques. Marie Chartron, Diffy Mariani.
La route est sous tes pieds, ne laisse pas la mousse envahir tes souliers.
Entre la France et l'Angleterre, trois musiciens et une artiste, nés entre 1942 et 1949, se remémorent leur grand départ. Ils se souviennent par petites touches du désir qui était le leur et leur ouvrait la route dans les années 60. Valérie Lagrange, Caroline Kuhn, Emmanuel Parrenin et Lionel Magal larguent les amarres.
La route est sous tes pieds, ne laisse pas la mousse envahir tes souliers.
Jaune. Bleu.
The color of the 60s.
Yellow.
Violet.
plume.
Les années 60 n'ont pas été seulement révolutionnaires au plan politique. Nous sortions tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Tout était brun, très maussade. La poussière des bombardements recouvrait tout.
Caroline Kuhn, artiste.
Et l'une des choses que le mouvement hippie a faite, ça a été de remettre des couleurs dans la palette de nos vies.
Indigo.
Red.
Violet.
Orange. Bleu.
Orange.
Jaune. Vert.
Yellow.
Jaune. Vert.
Bleu.
Moi, quand j'étais petite, j'étais complètement hallucinée quand je voyais des premières communiantes dans les rues.
Valérie Lagrange, musicienne, actrice.
Parce que à l'époque, Paris, c'était gris. Dans les années 50, très peu de temps après la guerre, et à l'époque, tout était gris anthracite. Et alors, de voir parce qu'à l'époque, les communiantes, elles étaient en organdie. Et de voir ces êtres surnaturels, toutes blanches comme ça, au milieu de ces immeubles majoritairement gris, pour moi c'était surnaturel. Et j'ai encore cette vision, quand je voyais des groupes de communiantes comme ça, ça me mettait dans un état de transe quand j'étais petite, mais vraiment.
Je voyais les notes comme un film, mais avec des couleurs qui ne sont pas les couleurs que l'on voit d'habitude, c'est-à-dire très très phosphorescentes. J'ai eu ça jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Donc tout ce que j'entendais, je voyais ça en image, je voyais des couleurs. J'avais l'impression que chaque partie de ma peau dansait indépendamment les unes des autres. Ça dansait à l'intérieur de mon corps. Comme si les cellules dansaient et que ça me mettait dans un certain état. C'est quelque chose qui nous emmène presque à la transe sans s'en rendre compte. Et le corps, il est bien présent, mais il danse sans que je danse à l'extérieur. Et ça s'est arrêté après.
Emmanuelle Parrenin est musicienne. Et s'il faut absolument mettre des étiquettes, elle est une grande voix du folk, pionnière du folk psychédélique en France.
Je suis née dans la musique de chambre. Mon père avait créé le Quatuor Parnin, qui était un des grands quatuors français. Il travaillait 12 heures, 15 heures par jour, et il s'occupait évidemment pas du tout. J'étais transparente, il n'y avait pas vraiment de lien. Mais à travers les portes fermées, je l'entendais jouer. Et quand j'étais petite, et que j'entendais les interprétations et la musique, je voyais en couleur les notes.
Valérie Lagrange est actrice et musicienne. Propulsée très jeune au cinéma, aux côtés de Bourvil dans La Jument Verte de Claude Autant-Lara, elle mènera parallèlement une carrière musicale aventureuse et fertile.
Ben là, c'est la petite bouille, une petite bouille mignonne et pleine d'espoir dans la vie. Voilà, bon, j'avais quand même déjà des problèmes avec ma famille, hein, parce que mon père étant quelqu'un qui était très intolérant, que j'ai compris plus tard pourquoi, parce que bon, il s'est retrouvé à la guerre à 19 ans, à vivre des horreurs, son meilleur copain à moitié décapité par un éclat d'obus à côté de lui, enfin les joyeusetés de la guerre, quoi. Et puis surtout, il voulait être dessinateur et mes grands-parents venaient d'acheter une grande quincaillerie et on lui a dit, mais tu plaisantes, tu vas travailler à la quincaillerie avec toute la famille, tu vas pas faire les beaux-arts. Et donc il avait sans doute en lui beaucoup de frustration. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il était une personne, j'ai mieux compris après, alors je me suis pris des baffes, en veux-tu, en voilà. Et puis c'était quelqu'un, il fallait obéir, et puis c'est tout, quoi. Et puis, j'ai pas eu un père qui vous protège, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché après dans ma vie, c'est la protection.
Caroline Kuhn est artiste.
une figure militante et féministe de premier plan dans le Londres des années 1960. Un peu plus tard, on la retrouvera aux côtés des Clash, mais ça, c'est une autre histoire.
I was born in London.
Je suis née à Londres parce qu'il y avait là les meilleurs hôpitaux. À l'époque, quand on était riche, on venait de la province pour naître à Londres. Mais ensuite, je suis retournée dans le Kent, dans une famille qui, en apparence, comme toutes les familles bien établies, était très conventionnelle et aspirait à se hisser dans la classe supérieure. Mais en fait, dès mon plus jeune âge, je suis arrivée à déceler l'espèce d'hypocrisie de cette famille très conventionnelle.
Behind the scenes of this very establishment family. And in fact,
en fait, je me souviens très clairement de ce que ma grand-mère m'a dit un jour, quand j'avais 11, 12 ans. Elle s'est tapoté le nez et elle a dit, « Ma chérie, il faut permettre aux hommes d'avoir leurs petits. » Et sa voix s'est étouffée. J'étais en train d'être formatée dès mon plus jeune âge pour être la femme qui ferme les yeux sur les maîtresses de son mari. Autrement dit, on allait me dire de me marier et de me la fermer. Et donc, je crois que, toute petite déjà, j'avais décidé que ce ne serait pas la vie que je mènerais.
Moi, j'avais pas peur du tout, hein. J'étais dans le flux de ma vie. J'avais pas peur.
Partir dans des chemins qu'on ne connaît pas.
Oui, c'était be here and now, d'être ici et maintenant. Puis j'avais l'énergie. Mes parents écoutaient pas trop Brassens et tout ça. Et bon, ils aimaient bien Gilbert Bécaud, Robert Lamoureux, enfin des trucs vraiment qui, moi, ne m'inspiraient pas trop. Mais alors, quand sont arrivés tous ces films avec James Dean, alors James Dean, bon, bah, c'était une déflagration. Brando, Elvis Presley. Moi, à 15 ans, ça y était, j'étais dans ce mood-là, et à la rébellion totale. Et, voilà, quoi.
J'ai été très jeune quand j'ai été au centre américain. J'ai vu pour la première fois une vielle à roue et je suis tombée en amour sur cet instrument. Je me suis dit, mais je veux faire ça. Et puis ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est aussi, bon, il y avait des musiciens de partout. Il y avait des musiciens bretons, il y avait des Africains, Et moi, je suis restée, j'étais très jeune quand je suis arrivée au centre américain, j'avais 17-18 ans. Et j'avais des chansons, je jouais de la guitare à l'époque. Et le système du Hootenanny à l'époque, on donne son nom à l'entrée et on nous appelle pour venir jouer. Pendant un an, on m'a appelée et j'ai pas pu bouger de mon siège. J'avais peur. Mais par contre, j'étais très à l'écoute de tout ce qui se passait. Et puis au bout d'un an, j'ai commencé à aller jouer.
Tucker Gypsy.
Fondé en 1934 et installé boulevard Raspail dans le 14e arrondissement de Paris, le Centre américain était dans les années 1960 un lieu majeur de la création artistique et musicale. On pouvait y entendre Alan Stivell, Steve Waring ou Graham Allwright, y croiser John Cage, Merce Cunningham, Henry Miller. Un lieu de passage et d'expérimentation hybride.
Alors le Centre américain était un lieu propice aussi, c'était un lieu qu'on pouvait entre guillemets squatter.
Lionel Magal est artiste, musicien, proche du journal Actuel, membre du groupe Crium Delirium, un ovni psychédélique qui tournera dans les années 70 aux côtés des groupes Gong, Magma et de la chanteuse Nico.
Je suis d'un autre pays que le vôtre.
Bon, autres, quand on avait des projets de théâtre, des projets de... On utilisait la grande salle de spectacle avec les outils qu'il y avait pour faire des projections, pour y faire des concerts. Il y avait... Chez nous, on avait déjà le groupe, une bande, Crayon Delirium, qui était là en place. Et on faisait pas mal d'interventions en faisant la promotion dans les rues avec des pancartes, des panneaux, pour venir sur des performances, des théâtre-actions. Comme un artiste américain qui séjournait là-bas, il y a eu le Living Theatre quand même qui est passé. Voilà, il y avait toute une diversité de styles. Et le Centre américain était vraiment une grande plateforme de rencontres et de possibles sur Paris à ce moment-là.
En fin de compte, au Centre américain, j'ai rencontré tout un tas de musiciens qui utilisaient des instruments que je ne connaissais pas, style le dulcimer. Et on a, ensemble, on est parti au Canada, c'est-à-dire qu'on a fait avec l'Office franco-québécois un échange, et on est parti au Canada, dans les endroits les plus isolés. On avait un petit bus, et on arrivait, par exemple, je me souviens très bien, à l'île aux Coudres, donc c'est un endroit complètement perdu sur une île. On arrive, on connaît personne, on demande, mais il n'y a pas un musicien, il y a... Ah, mais si, je connais le gigueur connaît le violoneux connaît l'accordéoniste, l'accordéoniste connaît le chanteur, et le soir, on fait la veillée.
Il y avait un cerbère au Centre américain, un indien Sioux, qui s'appelait Rai. Il avait des cheveux blancs, longs, bien sûr, jusqu'au bas des reins. Il avait un gilet brodé en perles et avec des bouts de porc épic, vous savez, en gilet, voilà. Et il avait un soleil dans le dos magnifique. Enfin, c'était un homme assez extraordinaire. Un petit peu chaman quand même sur les bords quelque part. Et cet homme me dit, oh, Renard, il y a des amis qui arrivent de Woodstock et ils arrivent à Paris. Et ça serait bien que tu les rencontres pour jouer dans un film avec eux. Le film s'appelle Medicine Ball et c'est un Français qui tourne Reichenbach. Alors j'ai dit bon, pourquoi pas, mais enfin. Et le dernier soir où on joue, on exécute dans l'action théâtrale, dans la salle, là où je faisais des performances, et je faisais un lâcher de poule dans la salle, et j'avais une poule avec une serpe et j'allais lui couper le cou. Et là, au moment où je vais couper la tête de la pauvre poulette, il se fait qu'il y a une vague de freaks qui rentrent dans la grande salle et qui prennent les mains de toute l'assistance et qui font oh, oh, ils projettent un grand son phénoménal et avec ce son toute la salle reprend le home. Et moi je tombe en même temps, en simultané. Là on est au ralenti total, vous voyez, on est dans le psyché déclic et je tombe à la renverse et je me vois au-dessus de mon corps. On me réveille avec un saut de flotte sur la tronche. Et là, le mec s'appelle Lou, il me dit, nous partons en Inde, nous prenons la route, mais nous ne savons pas, nous sommes 40, nous ne savons pas où dormir. Est-ce que c'est possible de dormir chez toi? Alors, je leur dis, oui, il n'y a pas de problème, nous on est déjà 40, on sera 80. Nous sommes allés avec un bus qu'ils avaient devant le Centre américain, qui était un bus déjà bariolé, peint, avec un tipi au-dessus, avec des sacs de farine pour faire du pain, pour des filles magnifiques, avec des vêtements brodés, et les babas barbus, magnifiques également. Et donc ils partaient à Katmandou, et je leur ai dit, écoutez, moi je cède l'atelier et je pars avec vous dans le bus On The Road.
Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. Now, it's not going to be steak and eggs or anything, but it's going to be good.
Woodstock, août 1969. Un homme tout sourire sous son chapeau annonce le petit déjeuner au micro. Nous allons servir le petit déjeuner au lit pour 400 000 personnes. Ce clown militant, on le connaît sous le nom de Wavy Gravy. Il est l'une des figures centrales de la Hog Farm, la ferme des cochons, collectif d'activistes et communauté américaine née au mi-temps des années 60. Près d'un an après Woodstock, ils atterriront dans l'atelier parisien de Lionel Magal. En décembre 1970, Bernard Kouchner et Roger Paul-Droit écrivent dans Actuel. L'armée des clowns, ce sont de drôles de types bariolés et touffus. Français, on les évite, les trouvant malfamés, provoquants ou débiles. Étrangers, on les guette, on les approche, on les flatte. Ces paladins d'un nouveau monde, d'une certaine drogue et des amours neuves ont débarqué en force cet automne à Paris. Qu'est-ce qui les fait courir sans un rond vers les Indes ?
Alors à ce moment-là, c'était le bus Volkswagen, on était quatre avec trois garçons et moi j'étais la seule fille. Il y avait juste une planche avec les instruments au-dessous et au-dessus, on pouvait être quatre sacs de couchage. On venait de créer Mélusine et on changeait de ville tous les jours. Je me souviens, j'avais une valise en osier avec tout ce qu'il faut pour faire à manger n'importe où. Je me vois encore sur les marches d'une église, n'importe où. Je peux dormir n'importe où. Voilà. Mais je pense que le nomadisme, en fin de compte, même si je l'ai vécu à travers les tournées et les voyages, mais je pense que c'est surtout l'intérieur de soi.
San Francisco,
Istanbul,
Zagreb,
Gaziantep,
Belgrade,
Gaziantep,
Erbil,
Kandahar,
Istanbul,
Bagdad, Katmandou, New Delhi, Istanbul.
Dans l'atelier de Caroline Kuhn à Londres, un tableau représente une jeune femme d'origine modeste dont l'histoire accidentée laissait entrevoir les bouleversements à venir des années 60. C'est Christine Keeler, la scandaleuse, broyée par les conventions sociales. Celle qui, en 1961, faisait tomber son amant, Lord John Profumo, secrétaire d'État à la guerre du gouvernement britannique. La même année, Caroline Kuhn prenait la route de Londres.
Je voulais être artiste. Mes parents m'ont mise à la porte à 16 ans. Mais fait intéressant, même si j'ai été jetée à la rue et que j'ai dû gagner ma vie, j'avais tous les privilèges de ma classe sociale, tous les acquis. Par exemple, j'ai appris très rapidement que grâce à mon accent, à partir du moment où j'ouvrais la bouche pour parler, aux yeux des autres, j'étais forcément riche et lié au pouvoir. Parfois, c'était un désavantage, mais la plupart du temps, cela a été une chance formidable. Particulièrement en 1967, lorsque j'ai fondé l'organisation Release, Libération, et qu'il fallait que je me rapproche du pouvoir. Je m'élevais contre la manière dont les jeunes étaient traités par la police et par la loi. Et parce que je pensais que pour changer la société, il fallait viser le plus haut, aller au Parlement, aller voir les députés, et parce que je n'avais pas la moindre crainte du fait de mes origines sociales, il me suffisait d'appeler un député ou le directeur d'une institution et leur dire « Je veux vous rencontrer ». Donc j'avais les privilèges de classe, et en même temps, du fait d'avoir été jetée à la rue parce que j'étais rebelle, je connaissais les deux faces d'une même société.
C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers.
Il y a eu la soirée le 11 mai 68. On avait remonté le boulevard Saint-Michel avec tout un tas d'amis de l'époque. Et bon, c'était ambiance kermesse. Et quand on est arrivé en haut, là, on s'est retrouvé avec des gens qui passaient les pavés. Donc nous, on a passé les pavés et puis on s'est fait charger par la police. les quarts de police qui nous fonçaient dessus. Et ça, je dois dire que j'ai eu la peur de ma vie. Et cette nuit-là, la nuit de 68, j'ai dit « basta, je veux plus ». Je veux plus, j'en ai marre de toute cette scène parisienne, de tous ces gens, il faut que je me barre. C'est parti là, j'ai décidé, et le lendemain, on habitait tous, on partageait une maison au parc Montsouris, j'ai pris ma petite valise et je me suis barré à Rome. Je suis parti à Rome. Ça, c'est le vrai premier pas pour la route.
Oui. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave.
Au mi-temps des années 60, Valérie Lagrange partage les expérimentations artistiques, musicales et communautaires d'une scène parisienne underground où l'on retrouve, entre autres, Jean-Pierre Calfon, Bulogier, Pierre Clémenti et Jacques Higelin.
Moi, je vivais une histoire avec Jean-Pierre Calfon, qui était compliqué. Je me suis jamais dit, je vais faire la route, hein. C'est pas du tout. Je suis partie à Rome parce que je me suis dit, je pourrais pas me séparer de Jean-Pierre si je reste à Paris. Parce qu'on a les mêmes amis. Donc on va sans arrêt se rencontrer. Et il va être avec une telle ou une telle. Et ça va me faire flipper. Donc, il faut que je coupe c'était uniquement l'histoire de m'éloigner. Pour pouvoir vivre cette séparation. Mais, faire la route, je me suis jamais dit, je vais faire la route. C'est l'enchaînement des choses. Moi, j'ai suivi un petit peu comme un bouchon qui descend un torrent. Si, j'ai décidé de m'en aller de Paris, ça c'est sûr. Ça c'est une décision très nette. Et puis j'ai écrit une lettre en plus à Pathé Marconi en disant, voilà, je pars. Pour moi, le showbiz, c'est terminé, c'est obsolète, c'est périmé. Maintenant, le monde va changer. Tout ça, c'est le vieux monde. Alors, moi, j'y croyais à fond. Hein. Je me disais, ça y est, on est parti pour on va vivre dans un autre monde, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. Et donc, moi, tous les trucs de show business, j'en avais par-dessus la tête. Le cinéma, le showbiz, tout ça. J'étais en pleine mutation. J'étais une mutante.
J'ai fondé l'association Willis parce que, du haut de mes 16 ans, comme j'avais été jetée à la rue, j'ai été immédiatement déclassée et assimilée à la classe ouvrière. J'habitais un quartier de Londres vraiment pauvre et tout ce que je pouvais me payer, c'était un studio. J'ai rencontré un jeune homme qui était caribéen. Il m'a dit au bout de quelques mois qu'il devait aller à Old Bailey parce qu'il avait été arrêté en possession de drogue. Et j'ai vu cet homme formidable être jeté en prison pendant 3 ans pour avoir été en possession d'une toute petite dose de cannabis. J'ai vu comment la classe dirigeante anglaise, le corps juridique anglais et le corps policier anglais traitaient les gens issus de la classe ouvrière. Ça a été un choc, parce que la manière dont le système et la loi traitent les gens de ma classe sociale est bien différente. Alors j'ai utilisé les ressources de ma classe, ma connaissance de la loi, pour tenter de faire sortir mon ami noir de prison.
My black friend out of prison.
Vous savez, j'avais une petite longueur d'avance. Je savais quoi faire. Soudain, l'establishment a vu émerger ce phénomène hippie. Et vous aviez là, sur le devant de la scène, ces jeunes gens qui s'opposaient à l'ordre établi, qui s'habillaient avec des robes hippies, exotiques. Beaucoup de jeunes ressentaient la même chose. Nous avons organisé de nombreuses réunions dans lesquelles on essayait de décider ce que nous allions faire. Comment allions-nous empêcher la police de nous arrêter dans les rues, nous les hippies, et de nous envoyer en prison? La police avait deux méthodes. Elle nous repérait dans les rues, parce que nous avions les cheveux longs et que nous portions des clochettes, nous étions très faciles à identifier, et nous étions arrêtés et fouillés. Ou alors, ils s'introduisaient de force dans nos maisons à 1h du matin. Donc les gens disparaissaient. Des amis disparaissaient, tout simplement. Alors, j'ai su que je devais créer une organisation qui fournirait des informations, en l'occurrence, ce que vous devez faire quand vous êtes arrêté. J'avais un atelier, comme celui où on se trouve. J'ai fait installer un téléphone, et nous avons rassemblé les fonds. La première fois que nous sommes apparus publiquement, c'était à l'occasion du tout premier rassemblement pour la légalisation du cannabis à Hyde Park pendant l'été 1967. Alors j'étais là, accompagnée de la personne avec laquelle j'ai cofondé l'organisation, Rufus Harris, en train de distribuer ce que nous appelions « bus cards », des cartes de sortie de prison sur lesquelles on pouvait lire « release », c'est-à-dire « libération »,« connaissez vos droits », »,« si vous êtes arrêté, appelez ce numéro ». Et quelques jours plus tard, le téléphone sonnait sans cesse. C'était le début de l'organisation. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. Quand on a réalisé que les rockers faisaient partie de cette culture-là, de la contre-culture, du mouvement hippie, dont ils étaient les icônes, qu'ils prenaient des drogues, alors la police et la société ont voulu les punir. Donc, les Beatles ont été arrêtés, les Rolling Stones ont été arrêtés, tous les grands musiciens ont été arrêtés. Et qui appelaient-ils quand ils étaient arrêtés? Ils appelaient Willis, ils me téléphonaient. C'est comme cela que Willis a tissé des liens avec les musiciens qui atterrissaient en prison. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous les musiciens de cette époque-là.
Ne laisse pas la mousse.
La route est sous tes pieds, ne laisse pas la mousse envahir tes souliers.
13 décembre, Gypsy Camps. Dimanche, 11h. Très cher tous trois, je vous écris du Tipeee. Le stylo, la bille du stylo ne marche plus. Because froid, construction toute la journée dans le second bus. Banquette, cuisine, lit. Après un séjour dans une école à la campagne, endroit calme et reposant avec promenade dans les bois, découpe du bois et retour au chaud. J'étais le préposé au feu. Cet endroit est une communauté allemande, un énorme poêle en faïence, aussi haut que l'arche nous réchauffe. Le temps commence à être très très froid, mais enfin c'est une question d'adaptation. Heureusement, j'ai maintenant des vêtements très chauds, je vous expliquerai plus loin pourquoi.
J'ai une étiquette de folk psychédélique. Peut-être parce que j'étais une des premières à utiliser la vielle autrement que de manière traditionnelle. Parce qu'on arrive à trouver des sons incroyables. On ne sait pas ce que c'est comme instrument. Donc ça m'a intéressé de dévier les instruments, c'est-à-dire de la tradition les dévier. Et j'ai toujours cette tendance à vouloir dévier les choses.
Pour la première fois, nous avons monté le tipi en countryside après être restés à contempler le soleil couchant. Hier au soir, un énorme halo lunar autour de la lune pleine, je crois que c'est de la neige. Étant bien en forme et profitant des dernières lueurs, nous avons installé le camp. C'est réellement le Far West. Tout le monde a des occupations précises. Nous resterons probablement 5 à 6 jours ici, mais qui sait?
Alors, le psychédélisme, moi, je n'ai pas une explication, parce que justement, c'est tellement vague, et c'est tellement un mélange de choses. On ouvre l'espace, c'est une autre manière de voir la réalité, c'est une ouverture de l'espace, de l'air, de l'espace qui est devant soi. C'est une autre dimension que l'on va toucher. Moi, je ne suis pas psychédélique, ce sont les sons, ce sont ce qui sort de ma musique et des instruments.
Certains et certaines réparent les freins, les autres la cuisinent, qui marche en permanence. Nous allons chercher l'eau en ville et découpons du bois.
C'est l'espace du rêve, mais c'est le rêve dans la réalité, ce n'est pas un rêve où on est endormi. Que l'on essaye de faire transparaître. L'art est fait pour ça.
Bientôt Noël, je ne sais pas vraiment où nous serons à cette date. 6 juin sur la carte, la position actuelle du deuxième bus de Hog Farm.
Oui, pour moi, le psychédélisme, ça passe par la vibration, et par le son. Comment il va aller taper dans votre corps? Comment il va aller bouger les choses? Comment il va aller jusqu'à la cellule? Comment il va aller se transporter pour changer peut-être des choses à l'intérieur de la personne? Pour moi, c'est ça.
Nuremberg toujours, à moi déjà, que j'ai quitté Paris. Le temps passe à la fois rapidement et lentement. C'est un grand changement pour moi de vivre lentement, naturellement maintenant. Je sais quand le soleil se lève et quand il se couche. Envoie en même temps une lettre grosse bise à vous trois, sans oublier Mémé, Harry Zeleta, qui j'espère va mieux. Bise, Lionel.
Alors la scène folk, je pense que c'est au retour du Canada qu'on a décidé de créer ce premier folk club qui s'est appelé Le Bourdon. On l'a créé dans différents endroits, une cave rue de la Sourdière, on faisait venir des musiciens de plein de cultures différentes et on faisait de la musique toute la nuit. Et puis les grands festivals, c'était incroyable, quoi. Il y avait vraiment 20 000 personnes, il y avait plusieurs scènes, les gens dansaient, enfin, c'était un mouvement extraordinaire et c'est devenu à la mode. Et malheureusement pour moi, au moment où ça marchait bien, où on pouvait commencer à bien gagner notre vie avec tout ça, eh ben, j'en avais marre. Pourquoi j'en avais marre? Je vais vous dire. J'étais sur scène et je racontais, vous savez, ces chansons traditionnelles où la femme est toujours malheureuse. Elle va au champ jusqu'à ce qu'elle en meure. C'est toujours des tragédies où la femme subit à outrance. Et j'étais en train de chanter une de ces chansons. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Et ça a été fini. Je suis passée à autre chose.
By the roots of my hair, some god got hold of me.
Par la racine de mes cheveux, un dieu s'est emparé de moi.
I sizzled in his blue vaults like a desert prophet.
J'ai grésillé dans ses voltes bleues comme un prophète du désert.
The nights snapped out of sight like a lizard's eyelid.
Comme une paupière de lézard, la nuit s'est fermée d'un bruit sec.
A world of bald white days in a shadeless socket.
Le monde n'est plus qu'un long jour blanc dans une cavité sans ombre.
A vulturous boredom pinned me in this tree.
Un ennui rapace a cloué ma vie à cet arbre.
If he were I,
s'il était moi,
he would do,
il ferait ce que moi j'ai fait.
What I did. A poem by Sylvia Plath.
C'est un poème de Sylvia Plath,
The Hanging Man,
Le Pendu,
which was first
qui a été publié pour la première fois en 1968. Je lisais ses poèmes. Ils vous frappent en plein cœur. Sa sensibilité littéraire, l'acuité de ses mots, la précision de son propos étaient tout simplement... On apprenait une leçon de cette jeune femme, de cette brillante jeune femme qui essayait de se faire une place parmi les grands poètes dans un contexte de culture patriarcale. Qui essayait de tout être à la fois, une poétesse brillante, une amante merveilleuse, une grande artiste, une mère formidable. Elle s'est efforcée de tout accomplir et s'est brisée contre le mur du patriarcat qui rendait tout si difficile. Et elle s'est suicidée. Nous parlions de la façon dont le changement survient. Quand vous êtes jeune femme et que vous voyez ce qui arrive à une grande artiste comme elle, cela vous met en garde. J'espère que cela ne m'arrivera pas. Comment vais-je m'assurer que cela ne m'arrive pas? Suis-je sûre que cela ne m'arrivera pas?
À l'époque, j'ai voulu créer ma famille. J'ai voulu créer une nouvelle famille. C'était assez conscient. J'étais en bisbille à ce moment-là, un peu avec ma mère, avec la famille, mon frère, tout ça. C'était pas facile pour moi. Et en effet, j'ai trouvé une autre manière de penser, j'ai recréé une famille avec des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, et qui étaient souvent des musiciens, qui étaient des gens, des luthiers, qui étaient des gens qui correspondaient à ma sensibilité et à mon envie de plonger dans quelque chose que je connaissais pas. Je veux dire, au niveau de la pensée, j'ai beaucoup partagé ça avec ces gens que j'ai rencontrés.
J'avais un sentiment d'injustice, mais je pensais que ça concernait spécifiquement ma famille. Mais plus tard, quand je suis entrée en école d'art, je ne voyais pas d'exemple de femmes accédant à l'égalité sociale et professionnelle. Pour une jeune femme dans les années 60, ce qu'on voyait partout, c'était des hommes blancs en costume. Et c'était bien évidemment injuste. Et c'est à peu près à ce moment-là, après-guerre, que les hommes ont décidé qu'ils voulaient libérer leur sexualité et que le mariage était une prison. Ils voulaient se libérer de leur carcan, mais ne voulaient pas accorder les mêmes libertés aux femmes. Ceux qui étaient le plus à gauche, des activistes politiques, voulaient les mêmes privilèges sexuels que les hommes de la classe supérieure. Ils traitaient toutes les femmes avec qui ils avaient des rapports sexuels de putes, de garces, de traînées, de chaudasses, des milliers de mots dégradants pour caractériser les femmes. Ces femmes mêmes qui leur ont servi à se libérer sexuellement. Et c'est vers 1971 seulement que l'on s'est réveillé et que l'on s'est rendu compte que nous avions besoin d'une langue pour dire notre libération sexuelle. Nous avions besoin d'un féminisme. Ce que nous devions faire, c'était d'abord se tourner vers le passé, vers toutes ces femmes illustres qui se sont battues pour leurs droits. Ces femmes ont toujours été effacées, elles étaient cachées. Et puis, il y avait aussi les grandes théories qui venaient des États-Unis, comme celle de Betty Friedan, et puis la journaliste et militante Germaine Greer, qui venait chez moi et avec qui nous avions des conversations à propos de sexualité. Et je me souviens avoir choqué Germaine Greer parce que nous parlions des menstruations. Nous abordions toutes les questions de la sexualité féminine. Et quand Germaine a publié « La femme eunuque », nous avions enfin un texte auquel se référer. Bien sûr, juste avant que ce livre ne soit publié, j'avais déjà lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. J'ai le sentiment d'appartenir à une génération de femmes, nombreuses, qui ont fait ce travail et qui continuent de le faire. Il fallait que les femmes acquièrent leur liberté économique. Vous devez avoir un travail. Aucune femme ne peut être libre sans gagner d'argent. On devait apprendre tout ça et c'était un changement radical. Ce que le mouvement féministe a dit ensuite, et qui a été fondamental, un élément clé de notre avancée politique, c'était que l'intime et le domestique sont politiques. Il y avait toujours une ou deux femmes remarquables qui avaient réussi à s'affirmer dans le cadre de leur travail, et on se disait, mais comment font-elles? Vous nouez des amitiés, vous formez des groupes, vous organisez des soirées politiques, vous défiez, vous manifestez, vous élevez la voix bien fort et vous vous assurez que la loi change. Et vous vous assurez que la société change. et vous dites, en votre nom, à vos amis, voilà comment je vais vivre. Et vous le dites bien fort, sur la place publique. Je ne me marierai pas, j'avorterai, j'aurai de nombreux amants, je serai lesbienne. Très peu de gens font ça. Et heureusement, ils le font, parce que c'est comme ça que les choses changent.
Ah si, je sais ce que je cherchais un maître, parce que j'avais découvert le bouddhisme et tout ce qui était spiritualité répondait à des besoins très forts que j'avais en moi. Donc c'est ça en fait que je suis partie chercher. Mais en même temps j'ai été quand même très déçue. Comment je pourrais dire ? Ceux qui étaient dans cette quête spirituelle, eh bien, ils se prenaient pas pour rien, quoi. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Katmandou, j'avais trouvé un monastère à côté de Katmandou avec cinq lamas qui enseignaient le bouddhisme tibétain à des touristes, des jeunes qui en quête de spiritualité, qui étaient quand même assez suffisant, et je sais pas, enfin, il y avait quelque chose de pas très chaleureux, voilà, on va dire. Je sais qu'un jour, j'étais avec mon fils, qui avait 11 ans, et l'organisation de ce monastère avait fait une fête pour Noël, pour les Occidentaux qui étaient là. Et donc, tout le monde était autour de cette table, avec les cinq lamas qui étaient au bout de la table, et il n'y avait pas, on entendait une mouche voler, quoi. Donc c'était très emmerdant, surtout pour mon fils qui avait 11 ans et qui avait envie de s'amuser et qui commençait à être un peu agité et qui venait de s'acheter des pétards à Katmandou. Et maman, je vais lui faire péter mes pétards. Non. Enfin bon, et tous les gens qui me regardaient d'un air... Mais c'était des jeunes, hein, c'était des gens de 20-25 ans. C'était pas des... qui me regardaient un peu offusqués, celle-là, avec son garnement, là, enfin, on n'est pas là pour ça, on est dans la quête spirituelle, on n'est pas là pour... avec des mômes qui veulent faire péter des pétards, tout ça. Donc c'était un peu mal vu. Et puis à un moment, j'en pouvais plus, donc je lui dis, bah écoute, vas-y. Donc il sort, et puis alors évidemment, on commence à entendre les pétards dehors. Donc alors évidemment, tout le monde me regarde. Et petit à petit, il y a un moment, un moine, un lama qui se lève et qui sort. 5 minutes après, un autre lama qui se lève et qui sort. Et en fait, les lamas se sont retrouvés à écrouler de rire avec mon fils, à faire péter les pétards, plier de rire et écrouler, faisant des galipettes et tout, alors que tout le monde était coincé, rigide. Et là, j'ai compris beaucoup de choses, quoi. Je me suis dit, oui, alors là, on est complètement à côté de la plaque, parce que la spiritualité, c'est pas d'être guindé comme ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, c'est avec le cœur, quoi. Et ces gens-là, souvent, n'avaient pas... Je trouvais qu'ils étaient un peu secs. Les routards en quête de spiritualité, je les ai souvent trouvés secs, sans cœur, quoi, sans chaleur.
Nous espérions que la révolution toucherait tout le monde, mais tout le monde n'est pas identique. Donc nous avons essayé de nous lier les uns aux autres, par exemple à la communauté immigrée qui se battait contre le racisme, aux femmes de la classe ouvrière, à celle de la haute société, mais c'était difficile. Je me rappelle de mes erreurs. Je me souviens que j'habitais avec une amie qui était américaine et noire. Elle avait étudié à l'université révolutionnaire de Berkeley et elle utilisait le mot « nègre ». Cette amie était l'une de mes premières amies et amantes noires. Et lorsque nous discutions dans notre appartement, c'était le langage que j'utilisais. Un soir, je suis allée dans un club au nord de Londres avec un ami, noir lui aussi. Nous étions au bar quand j'ai senti un grand coup sur mon épaule.
Tap,
tap, tap, tap. Je me suis retournée et il y avait un homme noir derrière moi, un soldat américain, qui m'a dit « Ne prononce jamais le mot « nègre » en public ». Cela a été un moment de prise de conscience très important. On apprenait et on faisait des erreurs sans cesse. Avec cette interconnexion de races, de classes et de cultures différentes, nous ne faisions pas seulement face à l'ordre établi, mais aussi à notre propre ignorance. Je suis encore en train d'apprendre. Il y a toujours des choses qui offensent l'autre. Donc il faut écouter, garder ses oreilles grandes ouvertes et apprendre. Je connaissais beaucoup de personnes déçues, parce que nous étions sans cesse déçus. Je pensais, du haut de mes 21 ans, que si tout ce que l'on avait à faire, c'était de fournir des faits aux parlementaires, fournir les preuves de ce qu'il se passait vraiment, le changement se produirait automatiquement. J'étais déçue et complètement abasourdie, tout le temps, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas comme cela que le monde fonctionnait. On ne peut pas simplement frapper à la porte de l'ordre établi et demander du changement. Donc nous étions constamment déçus. Parce qu'à cet âge, nous n'avions pas pris conscience du temps que cela prendrait, de la difficulté que cela représentait, que le changement n'est pas une partie de plaisir. On ne l'obtiendrait pas avec une seule manifestation. C'est une bataille longue et difficile. Et après quelques années, quand vous réalisez que rien n'a changé, beaucoup sont déçus et abandonnent. Non, pour moi, c'est à ce moment-là que le vrai travail commence. Retroussez vos manches, prenez conscience de la difficulté que cela représente d'œuvrer pour le changement, de faire tout ce travail d'influence auprès des représentants politiques. Une fois, un homme politique a mis sa main sur mon genou et m'a dit « Caroline, y a-t-il la moindre chance que vous vous convertissiez au catholicisme ?» Et j'ai répondu « Non, je ne pense pas. » Et il m'a dit « Eh bien, dans ce cas, je suis navrée, mais je ne peux pas vous aider. » J'ai appris que le changement prend beaucoup de temps. Il suffit de continuer, de s'accrocher à ses principes, juger par vous-même, apprenez davantage, surmonter la déception, parce que vous êtes condamné à être déçu, ça fait partie de la vie. Apprenez à composer avec cette réalité, apprenez à garder espoir, apprenez à continuer.
Paris, Fribourg, Zagreb, Istanbul. Belgrade, Istanbul, Ankara, Gaziantep, Bagdad, Isfahan, Lahore,
Zagreb,
New Delhi, Katmandou, Goa, Biza,
Paris, Fribourg,
Palma, San Francisco,
Lahore,
Montsouri,
Goa,
Zagreb,
Fribourg, Ibiza, Palma,
Belgrade, Ankara, Gaziantep,
San Francisco.
C'était les voyages initiatiques avec Valérie Lagrange, Emmanuel Paronin, Caroline Kuhn et Lionel Magal. Et les voix de Léa Drouet, Didier Lagarde, Mathieu Farizier, Rayanne Dinstag et Mélodie Ziegler. Traduction Mélissa Foust. Merci à Dominique Kravik, Philippe Thiers, Jean-Baptiste Véry et au label Souffle Continu. Merci aussi à Christian Bourdin, dit Crottin. Documentation INA, Clary Monac. Coordination, Perrine Kervran, accompagnée de Marivonne Abolivier. Prise de son, Bernard Laniel et Frédéric Kérou. Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire de Marie Chartron et Diffy Mariani.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans le combi Volkswagen, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous podcaster, entre autres, sur l'application Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, la Renaissance psychédélique. Et pendant encore une semaine, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Les Bêtes, le documentaire d'Ariane Doublet consacré aux vétérinaires de campagne. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et Les pieds sur terre.